Donc il y a Olivier qui m'a rejoint. Salut Olivier, le claqueur de porte.
Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous.
Donc aujourd'hui on va s'intéresser en deux épisodes, hein, on va le faire en deux semaines, à la capitale de la chrétienté, le Vatican, ses secrets. On va s'intéresser un petit peu à ce lieu qui fut capitale d'empire, siège d'une religion, lieu de scandale de toutes sortes. En résumé, eh bien, le Vatican c'est quand même quelque chose.
Et ben voilà, t'as tout dit. Bon ben voilà, c'est parfait. Voilà, et bonne soirée à tous. C'était les 5 minutes d'histoire. Voilà. Allez, plus sérieusement. Ben oui, effectivement, un Vatican dont on dit tout et son contraire, hein, et qui entretient toujours cette part de mystère qui nous intéresse. Lorsqu'on lit Dan Brown, par exemple, on découvre des trésors potentiels au sein des archives du dit Vatican. Hein. C'est toujours très très mystérieux.
Et donc, le Vatican, c'est un lieu de pouvoir, de mystère, mais aussi de débauche ?
Eh bien, si l'on en croit les deux séries autour des Borgia, vous savez, la série qui a été réalisée par les studios américains dont j'oublie le nom, et puis également par Canal+, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un lieu de débauche.
Hein. Très bonne série. Hein,
voilà. Ah oui, j'ai vu les deux, j'ai beaucoup aimé. Hein. Tous ces éléments sont rassemblés, sont consignés, mais... alors. C'est plus que ça, c'est quand même effectivement un lieu de pouvoir et surtout de mystère. Hein. Je vous donne par exemple cette citation, plus de 1000 ans d'histoire dans un tunnel de 85 km. Ça c'est la formulation du site internet des archives secrètes du Vatican, parce que les archives secrètes du Vatican, c'est leur nom, hein, ont un site internet. Et je trouve que c'est quand même hyper intéressant de parcourir ce pan de notre histoire, puisque nous avons beaucoup de sources et beaucoup de ressources, pour l'historien comme pour le simple curieux, bien sûr, hein, pour le croyant, comme pour celui qui ne l'est absolument pas.
Pour creuser un petit peu, le Vatican, c'est quoi ?
Ah, eh bien, le Vatican, bah, pour reprendre l'expression de deux journalistes, hein, Bollert et Bartolini, deux journalistes qui ont écrit l'ouvrage « Le roman du Vatican secret », eh bien, on va parler d'un état confetti. Je trouve le mot très joli.
Oh, confetti. C'est mignon, oui.
Oui, oui. Alors, on parle en effet de 44 hectares seulement. Hein. Alors, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que ça représente, bah, c'est en fait le quart de Monaco, ou bien 5 fois la place de la Concorde à Paris, ou bien encore plus localement, c'est, vous prenez la superficie d'Épinal, Épinal, je crois, fait quelque chose comme 55 km² ou quelque chose comme ça, et vous divisez par 134, et vous avez le Vatican. Donc c'est minuscule, quoi. Hein.
Ça se visite plutôt vite, sans rentrer dans les détails, en vite. Ah bah, on y passe, hein,
voilà,
5 minutes.
Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et si on veut aller plus loin dans le sujet, bah, il faut préciser que, pour ce Vatican, la langue officielle, bah, bien sûr, c'est le latin, et non pas l'italien. Son chef d'État, c'est le pape, donc le pape est chef d'État, hein, officiellement. Et ses principaux ministères, pour la petite anecdote, sont installés en Italie, faute de place. Hein. Et puis, si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, l'ouvrage dont je viens de vous parler précise également qu'il existe un drapeau, un hymne national, des tribunaux, des ministères, une banque, une caserne, un parking, des jardins, des journaux, un syndicat, un supermarché, un hôtel, le fameux hôtel Saint-Marthe, une gare, un port, une équipe de foot et une compagnie aérienne.
Mais il y a plein de magasins, hein,
mais
au Vatican.
Oui, on y retrouve tout, et puis même une pharmacie. Alors ça, c'est bien sûr la fameuse pharmacie du Vatican, qui, bien entendu, ne vend pas de moyens de contraception, voire de pilules abortives.
Bien sûr.
Voilà, voilà.
Au quotidien, ça donne quoi au Vatican ?
Eh bien, au quotidien, ça donne, outre le défilé, bien sûr, de voiles et de soutanes, ben, ça donne un état où la propriété privée n'existe pas. En fait, les logements sont loués et ils sont de fonction, généralement. Vous avez très peu de citoyens d'origine vaticanaise, hein, et l'acquisition de la dite citoyenneté ne se fait que grâce à la résidence et à l'exercice de fonction. Et cette citoyenneté, en plus, elle est révocable. Le premier des citoyens du Vatican, concrètement, le pape lui-même est citoyen d'adoption. Hein. C'est quand même assez fort de se dire ça comme ça, hein, parce qu'il n'est pas originaire du Vatican.
Et donc, au final, pour habiter au Vatican, on ne peut pas tout simplement louer l'appart, il faut y travailler, c'est ça ?
Ah oui, voilà, parce qu'il n'y a pas assez de place, hein, clairement. Voilà, hein, ça va très très loin. Hein, et encore une fois, je vous dis, c'est, vous passez les murs du Vatican, avoir cette citoyenneté du vaticanaise, je ne voudrais pas dire que c'est un chemin de croix, ça serait déplacé ici, mais enfin, ça relève quasiment. Mais c'est très très complexe, et surtout, elle est révocable, cette citoyenneté. C'est une citoyenneté entre guillemets provisoire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez quitté le Vatican parce que vous avez d'autres fonctions religieuses ou autres qui vous appellent ailleurs dans le monde, vous perdez la citoyenneté vaticanaise, hormis exception. Donc comme ça, au moins, ça règle le problème. Hein. Et puis, enfin, pour l'anecdote, il y avait quand même, hein, puisqu'il faut en parler au passé, un droit de vie et de mort du pape hein, sur les sujets vaticanés. Et ça jusqu'à Paul VI. Alors Paul VI, pour rappel, hein, c'est un pape qui règne entre 1963 et 1978. Du moins, si on en croit les thèses officielles, et non pas les théories du complot. Voilà.
On peut parler d'un premier mythe, d'une première légende aussi, si j'ose le dire, à savoir la tombe de Pierre liée à l'origine du Vatican.
Voilà, alors la tombe de Pierre, le premier pape, hein, celui qui est choisi par Christ, hein, si on suit l'analyse du texte biblique, alors je vous renvoie pour les plus férus d'histoire et qui veulent vérifier les sources aux Actes des Apôtres et surtout à Jean chapitre 21. En fait, donc, cette analyse qui est faite par les catholiques, dedans, clairement, on nous raconte que la légende, la tradition, veut que le martyre de Pierre aurait eu lieu à Rome, hein, alors que Rome n'est pas tout de suite choisi par le premier apôtre pour être le siège de l'Église, hein, c'est d'abord Constantinople. Donc, et ça, son martyre aurait eu lieu sur l'emplacement à peu près approximatif de la basilique actuelle, enfin c'est minuscule, il y a un tout petit bout de la basilique actuelle qui correspond à l'emplacement originel. Enfin bref, donc cela aux environs de 65, soit le premier siècle de notre ère. Et puis si on avance un petit peu dans le temps, des ossements, ont été trouvés lors des fouilles archéologiques qui ont été entreprises en 1940 sous le pontificat du pape Pie XII, hein, donc dans une nécropole qui est située sous la basilique, hein, parce que alors là, vous creusez un petit peu à Rome et au Vatican notamment, vous tombez sur je ne sais quoi. Hein. Mais donc là, ils sont tombés en 1940 sur un monument qu'ils ont daté d'environ du 4e siècle, et ce monument aurait été a priori édifié pour honorer celui qui est considéré comme le premier évêque de Rome. Voilà, donc des ossements qui sont enveloppés dans un tissu pourpre, brodé de fils d'or, qui ont été découverts, etc., etc.
Alors Olivier, dis-moi, est-ce qu'on est sûr et certain qu'il s'agit du premier pape ?
Eh ben non, hein, on va pas se mentir. Hein. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à creuser cette question il y a bien des années, parce que ça m'intriguait beaucoup cette histoire, quand vous étudiez la Rome antique à l'université et puis que vous creusez un petit peu ces histoires-là, vous apercevez qu'au final, il y a eu très peu de communication hein, sur ces recherches archéologiques et surtout sur les résultats scientifiques. Enfin, scientifiques, c'est en même temps vite dit. Mais bon, en fait, il faut dire que les papes n'ont jamais attesté que les ossements étaient authentiques à coup sûr. Hein. C'est, si j'en crois un article du Figaro et si je reprends les paroles du pape de l'époque, des tests scientifiques avaient conclu à une grande probabilité, et le mot probabilité est le mot d'origine. Hein. On pensait que c'était bien ceux de l'ancien pêcheur de la Galilée, n'est-ce pas, selon ce qu'a dit le pape Paul VI en 1968.
Probabilité, ça fait pas très scientifique.
Hein. Ah non, mais non, et puis si on va plus loin, on s'aperçoit que le médecin qui avait été chargé d'un respecter les restes, hein, les ossements, étaient ophtalmologistes, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, peu importe. Mais voilà, donc vous voyez, c'était pas forcément son domaine de prédilection, n'est-ce pas? Voilà, donc en fait, si on s'intéresse à un article du journal La Croix, alors ça va prendre avec précaution, parce que La Croix est quand même un journaliste, je dirais pas à tendance, mais quand même, voilà, qui est fortement marqué, du moins, en septembre 2017, La Croix a fait paraître un article où on apprend que, et je vous lis l'extrait, voici quelques mois, un ouvrier a découvert, à l'occasion de la restauration d'une église médiévale du vieux quartier romain Trastevere, Santa Maria in Capella, donc l'église, deux pots en plomb sous la dalle recouvrant l'autel. Sur ces pots étaient inscrits les noms des premiers papes, les saints Pierre, Félix et Calixte. Et à l'intérieur de ces pots se trouvaient des fragments osseux. Donc vous voyez, on n'est pas forcément certain que les ossements étaient ceux de saint Pierre sous la basilique. Voilà, voilà. Vous êtes donc sur RCF, Radio Jéricho Moselle.
Ben non. Oui. Vous le saviez pas, en fait, vous avez changé de station.
voilà. Allez, plus sérieusement. Donc, on en était donc à cette histoire du premier pape. Alors, juste un petit mot dessus quand même. Alors, et puis un mot sur la musique que vous avez écoutée et qui va être notre deuxième sujet. Alors, la musique que vous avez écoutée, déjà, c'est une musique de Farinelli, le film, hein, que vous avez sans doute tous reconnu. Et on en parlait avant. Hein. Il était beau, ce film. Hein.
Superbe film. Vraiment.
Moi, chaque fois que je vois la vidéo, parce que la vidéo est sur YouTube, de cet extrait, j'en ai les larmes aux yeux. Enfin, j'ai des frissons. C'est d'une beauté. Et pour l'anecdote, hein, la voix utilisée n'est pas une voix humaine, hein, mais on en parle juste après. Donc le premier pape, hein, on en était à se demander si c'était réellement ces ossements qui étaient là sur place ou non. Il faut juste savoir une dernière petite précision que vous pouvez regarder, vous pouvez observer quand vous allez à la basilique à Rome, vous pouvez observer le crâne donc du premier pape, enfin ou du moins ce qu'on suppose être le premier pape, et ainsi que quelques ossements. Ils ont été mis dans un coffre transparent, une sorte de reliquaire transparent, quoi, tout simplement. Voilà.
Donc maintenant, on passe à une deuxième légende, celle-ci bien réelle aussi, également, qui sont les castrats.
Voilà, évoquons effectivement ces figures très très particulières, hein, italiennes, hein, bien sûr, que sont les castrats de Rome. Et leur cas a toujours été... extrêmement controversé pour des raisons hein, qu'on s'imagine bien, parce qu'ils n'étaient pas castrats que par accident, voilà. Et notamment le dernier castrat officiel, Alessandro Moreschi, qui avait le surnom malheureux de Chapon Sacré. Vous avez très bien compris pourquoi, hein, c'est assez malheureux. Voilà, donc parlons opération, n'est-ce pas, hein, entrons dans les détails, sans nous voiler la face, hein, histoire qu'on comprenne bien.
Oui. Âme sensible, s'abstenir.
voilà. Et donc, allez, plus sérieusement, sans nous voiler la face, ben, en fait, cette opération, aujourd'hui, ça porte le nom d'orchidectomie, ou ablation d'un ou des testicules, voilà. Donc, et cette ablation chirurgicale va changer l'image corporelle d'un homme, hein, clairement, hein, voilà. Et si on veut couper et casser une idée reçue, il faut rappeler que cette ablation, bien sûr, elle empêche effectivement la reproduction, hein, mais elle ne supprime pas forcément la possibilité d'actes sexuels. C'est ça qui est assez intéressant. Et cette opération, c'est pour ça aussi que ça avait été du moins toléré, on va dire, hein, parce qu'elle vise à conserver la voix très cristalline des jeunes enfants, mais c'est pas exactement une voix de jeune enfant qui va rester, hein, parce qu'elle va quand même légèrement se transformer. Et en fait, tout simplement, du fait d'un élément très concret qui est la testostérone, comme les spermatozoïdes d'ailleurs, qui sont produits dans les testicules. Voilà. Un petit extrait quand même, on a réussi à retrouver, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, un extrait enregistré du dernier castrat, Alessandro Moreschi. On va vous le faire écouter, pas très longtemps, 20 secondes, mais histoire que vous rendiez bien compte de la voix que c'est.
Énigmatique, hein,
oui, ouais, je vous avoue que moi j'en ai des frissons, mais pas forcément d'émotions. Ça me ferait presque, j'ai envie de dire, peur, dans le sens où on n'arrive pas à s'imaginer quel type de personne peut être derrière, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant. C'est une voix totalement à part, hein, clairement, et ça en fait frissonner, quoi, hein, clairement.
Et donc, on continue de parler du Vatican, et ça va se développer entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Alors, on avait parlé, dans une émission précédente, l'une des premières d'ailleurs, de ce mouvement de la réforme protestante au XVIe siècle. Eh bien, au XVIIe et XVIIIe siècle, il va y avoir un mouvement qui va y répondre, hein, chez les catholiques, qui est le mouvement de la contre-réforme. Et en fait, une idéologie va se développer qui est très simple, qui est « il faut prier sur du beau ». Eh bien, du coup, vous allez avoir des somptueux monuments baroques, vous allez avoir de la musique sacrée, secret qui va ressortir, qui va être recréé, etc. Hein, ça va être aussi un travail sur les vérités officielles qui vont être redéfinies par l'Église. Et enfin, bah, bien sûr, c'est la multiplication des castrats, si j'ose dire, parce que bah, concrètement, il faut innover, il faut promouvoir un autre type de musique, etc., etc. Et on a quelques enregistrements de la voix de ces personnages, du moins l'un des derniers, Alessandro Moreschi, qui est mort, je crois, en 1922 ou 23. Et voilà, donc on a sa voix, on a retrouvé sa voix sur des disques de cire, et c'est assez impressionnant, quoi. Voilà, les derniers castrats créés, si j'ose dire, ben en fait, c'est légèrement avant 1870-1871, parce qu'ils sont interdits définitivement à ce moment-là.